18h, bienvenue sur Europe 1. Je suis content et heureux. J'espère que c'est le début de la fin et d'un renouveau.
Le Royaume-Uni, premier pays au monde à autoriser le vaccin de Pfizer et BioNTech. 1 million de doses disponibles dès la semaine prochaine.
L'Europe, elle, préfère attendre. L'important n'est pas d'être le premier, mais d'avoir un vaccin sûr et efficace, dit le ministre allemand de la Santé.
Et Isabelle Horry nous expliquera que cette annonce des Britanniques est avant tout politique dans la dernière ligne droite du Brexit.
Au sommaire également ce soir, le rapport cinglant de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion Covid par la France.
Défaut de pilotage, manque d'anticipation, sous-estimation du risque.
Un témoignage très attendu au procès des écoutes dans lequel comparaît Nicolas Sarkozy, celui de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, qui nie tout en bloc.
Et puis on vous racontera également comment les Chinois peaufinent leur stratégie de conquête spatiale pour attraper l'Europe, la Russie et les États-Unis.
Et puis le PSG qui va tenter face à Manchester United ce soir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et ce sera à suivre en direct en intégralité sur Europe 1. La Bourse de Paris a terminé ce soir à l'équilibre, plus 0,02% à 5583 points.
La tendance météo, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Attention, temps très perturbé demain.
Oui, sur presque tout le pays, le ciel est couvert, humide, avec encore des chutes de neige et des températures froides. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et dans la course de vitesse au vaccin, les Britanniques virent donc en tête. Ils seront les premiers à se faire vacciner.
Après le feu vert de l'agence britannique du médicament qui autorise le vaccin Pfizer et BioNTech, ce dernier sera donc disponible dès la semaine prochaine dans tout le pays.
Ça va donc très vite. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Anaïs, comment cette nouvelle est-elle perçue ?
Alors, les quelques Britanniques que j'ai interrogés se réjouissent, comme Roger, qui se sent soulagé depuis qu'il a appris la nouvelle.
Je suis content et heureux. J'espère que c'est le début de la fin et d'un renouveau.
Lynn compte bien se faire vacciner dès que possible. À 85 ans, elle fait partie des personnes prioritaires pour recevoir le vaccin.
Je ne voyais plus du tout mes petits-enfants adolescents. Ça va être super de pouvoir les revoir. Mais bon, on ne sait pas encore combien de temps on est immunisé avec ce vaccin.
Selon un récent sondage, 67% des Britanniques accepteraient de recevoir le vaccin Pfizer. À la Chambre des communes cet après-midi, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a lui réitéré sa confiance absolue dans la procédure d'approbation du vaccin.
Nous avons dit dès le début qu'un vaccin doit être sûr et efficace avant toute considération pour le déployer. N'importe quel vaccin doit passer par un processus rigoureux d'essais cliniques. Ça doit passer aussi par une analyse indépendante de notre agence de médicaments, une des agences les plus respectées au monde.
Les premières doses du vaccin Pfizer doivent arriver en Grande-Bretagne ce week-end et être administrées dès lundi.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Alors, pourquoi les Britanniques et pas les autres ? Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante sur place à Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est plus prudente ou est-ce qu'on est en retard ?
En fait, les Britanniques disposent d'une procédure d'urgence qui n'existe pas à l'échelle de l'Union européenne. Cette procédure permet, dans les situations de crise, d'avoir temporairement recours à un traitement nouveau, même s'il n'est pas encore formellement autorisé, pour cibler en urgence une population spécifique. De son côté, l'Agence européenne du médicament explique qu'elle, elle mise sur une procédure plus traditionnelle, plus lente, mais qui va permettre de délivrer une véritable autorisation de mise sur le marché pour une durée plus longue. On l'attend pour le 29 décembre. Des deux côtés de la Manche, les scientifiques ont eu accès en temps quasi réel aux données des phases de test. Ils en sont au même point de connaissance. Mais les Britanniques font le choix d'aller plus vite alors que les Européens veulent examiner le dossier complet qui vient d'être constitué et déposé par le labo. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, en fait, c'est le contexte politique de ces choix différents. Pour Boris Johnson, c'est l'occasion de montrer que grâce au Brexit, les Britanniques sont plus efficaces. Ce à quoi les Européens répondent, nous sommes ravis que vous autorisiez si vite un vaccin découvert par BioNTech, une entreprise de l'Union européenne.
Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Pour Europe 1, notez que Vladimir Poutine demande aux autorités sanitaires de son pays de commencer les vaccinations à grande échelle dès la fin de la semaine prochaine, tandis que le Maroc, qui lui a opté pour les vaccins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, espère lancer d'ici la fin de l'année une campagne visant à immuniser en 3 mois quelque 20 millions d'adultes.
En France, le verdict de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise Covid, elle pointe un pilotage défaillant.
Après 6 mois d'enquête, le rapport de 200 pages accable l'exécutif, Jean-Rémy Baudot.
Oui, accable, c'est le mot. Une commission pilotée par les députés Les Républicains, sans surprise, pas vraiment tendre avec le gouvernement. Voilà quelques-unes de leurs conclusions. La France était mal armée. Gestion de crise chaotique, failles structurelles, pilotage défaillant, sous-estimation du risque. Masques, tests, tout y passe. Le rapport souligne par ailleurs que les EHPAD et les services d'aide à la personne ont été les grands oubliés de la première vague épidémique. Les députés de l'opposition ne trouvent donc quasiment rien à mettre au crédit du gouvernement après 6 mois d'audition. Plus jamais ça, a même pilonné le député LR Damien Abad. Le rapport complet, il sera rendu dans 5 jours, mais d'ores et déjà, la majorité LREM dénonce un rapport partiel et partial. Je peux vous dire qu'en coulisses, au sein de l'exécutif, cette commission d'enquête, purement consultative, elle a plutôt été mal vécue ces derniers mois, certains dénonçant une justice télévisée alors même que la crise n'était pas terminée. Sachant que, rappelons-le, au-delà de cette commission parlementaire qui n'a rien de juridique, les ministres en place lors de la première vague ont, eux, été visés par 96 plaintes adressées à la Cour de justice de la République.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Après Emmanuel Macron, Jean Castex précise les mesures pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger.
Oui, avec des contrôles aléatoires aux frontières et peut-être des quarantaines imposées aux touristes de retour de Suisse ou d'Espagne.
Et on en parlera avec les grandes voix, alors que chez nous, les remontées mécaniques resteront fermées pour les vacances de Noël.
Et d'ailleurs, des élus alpins et des professionnels de la montagne, à l'instant, annoncent qu'ils vont saisir le Conseil d'État contre cette décision de fermeture. L'Autriche, elle, annonce qu'il sera possible de skier sur ces pistes dès le 24 décembre. En revanche, les hôtels restent fermés.
C'est une audition très attendue dans le procès dit des écoutes, dans lequel comparaît Nicolas Sarkozy. Audition de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
Soupçonné d'avoir accepté de fournir des informations confidentielles à Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, dans l'espoir d'obtenir une promotion, un poste de magistrat à Monaco, qu'il n'obtiendra finalement jamais. Gladys Lafitte, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous avez suivi cette audience au cours de laquelle Gilbert Azibert s'est longuement défendu. Il conteste avoir fourni des informations secrètes.
Oui, l'ancien haut magistrat explique que non, Thierry Herzog, son ami de 25 ans, ne l'a pas sollicité pour obtenir des informations privilégiées sur la fameuse décision de la Cour de cassation au sujet des agendas présidentiels. Il concède seulement avoir discuté ensemble d'aspects juridiques. Alors la présidente lit à haute voix les conversations téléphoniques de Thierry Herzog à Nicolas Sarkozy, disant que Gilbert Azibert a bien bossé, qu'il a déjeuné avec un collègue, qu'il a fait le truc à l'intérieur. Réponse cinglante de l'intéressé. Je conteste formellement avoir tenu ces propos. Je n'ai jamais eu connaissance de l'avis ni cherché à en avoir connaissance. Je suppose que Thierry Herzog a voulu rassurer son client. À cette époque-là, Gilbert Azibert n'est pas sur écoute. Difficile donc de savoir qui dit vrai. L'avocat de Thierry Herzog explique déjà que son client ne s'expliquera pas sur des conversations couvertes par le secret professionnel. Contrairement à Nicolas Sarkozy qui s'est brusquement levé de sa chaise. Moi, je veux la vérité. Je m'expliquerai sur toutes les conversations. J'ai fait le choix de répondre. Ce sera donc lundi lors de son interrogatoire par le tribunal.
Et on suivra ça avec vous, Gladys Lafitte, qui suit donc ce procès pour Europe 1. La reprise également aujourd'hui du procès des attentats de janvier 2015, interrompu un mois en raison de l'état de santé du principal prévenu positif au Covid-19, apparemment toujours malade puisqu'il a été pris de vomissements à plusieurs reprises ce matin.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal avec Isabelle Millet, ils n'ont pas marché sur la Lune, eux, mais depuis, les Chinois se rattrapent.
Et oui, on se souvient qu'ils avaient été les premiers l'an dernier à avoir fait atterrir un engin sur la face cachée de la Lune. C'était une première mondiale. Et bien, cette fois, lors d'Autriche, ils ont réussi à poser une sonde avec un objectif ambitieux, collecter des échantillons de roches lunaires.
Oui, les Chinois veulent rapporter 2 kilos de roches en perçant le sol de la Lune jusqu'à 2 mètres de profondeur dans ce paysage lunaire gris parsemé de cratères. Ils sont précisément dans une zone où les traces d'activité volcanique sont les plus récentes, 1 à 2 milliards d'années tout de même, mais avec des roches différentes sans doute de celles qui ont été rapportées par les missions Apollo dans les années 70. Alors, la sonde ne va rester que 48 heures à la surface en principe, et si la phase de retour se passe correctement, la Chine sera seulement le 3e pays à rapporter des échantillons de la Lune après les États-Unis et la Russie. Au-delà de l'intérêt scientifique, les Chinois veulent aussi tester des manœuvres de nouvelles technologies avec l'idée d'envoyer un astronaute sur la Lune d'ici 2030. Et avec cette nouvelle mission, la Chine veut aussi montrer que dans le domaine du spatial, c'est un pays avec lequel il va falloir compter. Elle veut clairement investir dans son programme spatial et rattraper l'Europe, la Russie et les États-Unis.
Merci. Lors d'Autriche, le concours des lycéens décerné cet après-midi à Jaili Amadou Amal pour son roman Les Impatientes, publié par la maison d'édition Emmanuel Collat.
Oui, c'est un roman poignant sur la condition des femmes dans le Sud-Sahel qui retrace le combat de femmes mariées de force et qui tentent d'échapper à leurs conditions. On y reviendra dans le journal de 19h.
Julien, de la viande artificielle de poulet pour le dîner,
ça
vous dit ?
Ça ne me dit pas trop, non.
Moi non plus. Eh bien, figurez-vous qu'à Singapour, des restaurants vont en proposer à la carte. Ce sera une première mondiale. Il s'agit de viande de laboratoire, cultivé à partir de cellules animales. Et méfions-nous, parce que c'est peut-être l'avenir.
Bien. J'espère pas trop vite quand même.
M'en fous,
hein. Match capital pour le PSG ce soir en Ligue des Champions sur le terrain de Manchester United.
Et un échec mettrait en péril leur chance de finir à l'une des premières places qualificatives. Julien Froment, pour faire simple, hein, c'est leur avenir en Coupe d'Europe, hein, qui va se jouer.
Oui, exactement. Réaliser un sans faute pour revoir l'Europe au printemps prochain. Voilà le plan, hein, du Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est si tout se passe sans accroc. Le problème, c'est qu'il y en a eu des accrocs dans cette phase de groupe. Deux défaites en quatre matchs, du jamais vu sous l'ère Qatari. Les Parisiens ont donc une obligation de résultat ce soir. Le milieu de terrain, Marco Verratti.
La pression, on l'a toujours. On a un championnat, on a un Champions League. On sait que Champions League, il y a 6 matchs. Ça veut dire que tous les matchs sont importants. Déjà, on a raté 2 et on n'a plus le droit de rater le 3e match. Il faut donner tout ce qu'on a sur le terrain et après, on va voir c'est quoi les résultats.
Verratti et les Parisiens qui vont retrouver ce soir, Julien, une vieille connaissance. Pas si vieille d'ailleurs. Hein.
Oui, si je vous dis le numéro 9, El Matador.
Cavani.
Ah, merci Anissa. Voilà. Edinson Cavani, donc meilleur buteur, hein, de l'histoire du Paris Saint-Germain. 200 buts de tout rond. Et une histoire sans fin. Le Covid est passé par là. Pas d'adieu pour l'idole du public du Parc des Princes. Ce soir, ce seront des retrouvailles forcément particulières. Cavani est annoncé titulaire. Il est en pleine forme. Il a inscrit un doublé le week-end dernier avec Manchester. Et malheureusement pour le PSG ces derniers temps, eh bien les ex aiment marquer contre Paris. Il y a eu Kingsley Coman et Christopher Nkunku en Ligue des Champions. Puis plus récemment, Yacine Adli avec Bordeaux en Ligue 1. Donc Paris est prévenu.
Vous êtes prêt pour ce soir, Julien ?
Tout à fait.
Vous allez nous faire vivre cette rencontre en direct, en intégralité, sur Europe 1 avec Cyril de la Morinerie. Le coup d'envoi, c'est à 21h. De son côté, Rennes, qui est déjà éliminé, a quand même tout intérêt à gagner chez les Russes de Krasnodar s'il veut retrouver la Ligue Europa. Le coup d'envoi, cette fois-ci, est à 18h55. Et puis, une compétition dont l'arbitre français, Stéphanie Frappard, s'apprête à écrire une page d'histoire, Julien, puisqu'elle sera ce soir la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue des Champions.
Exactement. Ça sera à 21h, l'occasion du match Juventus-Turin à Kiev. Elle a 36 ans et d'originaire d'Herblay. Et elle avait déjà officié en Super Coupe d'Europe. C'était un match entre Liverpool et Chelsea. C'était en août 2019. Donc voilà, première pour Stéphanie Frappard.
Si elle veut faire une petite interview dans le 18-20, vous n'hésitez pas.
On lui lance l'invitation avec grand plaisir.
À notre micro, voilà. Merci à vous, Julien. À tout à l'heure, Isabelle. 18h30, le rappel des titres. Et 19h, le journal de l'info. La météo, Anissa.
Oui, Julien.
Et froid demain.
Ouais,
merci d'être venu, c'est sympa.
Sacré programme hivernal, effectivement, pour demain. Sur les trois quarts de la France, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux frontières du Nord, en passant par le centre, l'Auvergne, la journée demain commence avec des petites pluies. Mais des pluies qui vont s'intensifier dans l'après-midi, notamment du côté de la Normandie, de la Bretagne, du Cotentin. Sur les reliefs, il neige encore demain, sur tous les reliefs, sauf la Corse. Dans le sud-est, sur le pourtour méditerranéen et la Corse, il va faire très beau. Dans l'après-midi, peu d'évolution, toujours un temps très agité et pluvieux sur les trois quarts de la France. Et puis le sud-est à l'abri, sous le soleil, avec une très belle journée presque printanière. Au bord de l'Atlantique, attention, le vent se lève dans l'après-midi, il va souffler fort. Il va faire froid, vous le disiez Julien, demain. Moins 5 à Manosque, moins 2 à Gap et Strasbourg, moins 1 à Belfort, 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Toulouse, 3 à Marseille, 5 à Paris le matin. Et au meilleur de la journée, ça a du mal à grimper, hein, avec seulement 4 degrés à Belfort, 6 à Nancy, 8 à Caen et Lyon, 9 à Paris, 12 à Bordeaux et 15 la maximale pour Bastia sous le soleil.
Donc, sortez les masques et les bonnets.
Ah ouais,
merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure, 18h30 pour un nouveau point météo.